Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu ». Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il lui disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec ». Mais l'autre lui fit de vives reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après tout ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Par trois fois, si tu es le Messie. Les chefs ricanent. S'il est le Messie, l'élu de Dieu, qu'il se sauve lui-même. Les soldats, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et puis un des malfaiteurs, n'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec. Chacun parle de son point de vue, de ce qu'il vit. Les chefs des prêtres attendaient le Messie. Et la première lecture qui nous est donnée dans le livre de Samuel, où on nous rapporte qu'on est venu chercher David comme roi pour régner sur tout Israël, dans ce deuxième livre de Samuel, le prophète Nathan lui dira « Quand tu seras couché au milieu de tes pères, alors je susciterai une descendance et ta royauté sera stable pour toujours. » Et le peuple n'a pas oublié cette prophétie. Et comme les rois qui se sont succédés sur Israël ont déçu parce qu'ils n'étaient pas parfaits, parce que quelquefois ils cherchaient leur intérêt, et n'étaient pas, comme ils auraient dû, être au service et guide du peuple, eh bien, ils vont se forger une idée d'un roi idéal qui sera envoyé par Dieu, et qu'on appelle Messie. Le Messie, ça veut dire « oint », celui qui a reçu l'onction. Et ils attendent, effectivement, ce Messie. Et quand Jésus, les gens pensaient qu'il était peut-être le Messie, malheureusement, il ne cadre pas tout à fait avec ce que les chefs des prêtres attendaient. Et s'il est condamné, c'est parce qu'ils sont déçus. Et c'est leur déception qui vont le faire mettre à mort. Les soldats qui sont occupants, eux se disent ben, « Quel bien piètre roi il fait là, il est crucifié, il s'est prétendu roi, eh ben, sa royauté, il n'y a pas eu beaucoup de monde pour le défendre. » Et puis ce malfaiteur, qui lui aussi attend le Messie et qui a une idée du Messie, c'est que le Messie sauvera le monde. Et alors du coup, eh bien, il attend d'une certaine manière. Mais il se dit, s'il est vraiment le Messie, eh bien, qu'il commence par me sauver de la mort. Chacun parle, vous voyez, de son point de vue. Et puis, dans Luc, il y a des paroles que Jésus dit en croix, une qui n'est pas rapportée ici, qui est juste avant, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, l'autre celui qu'on appelle le bon larron, que la tradition chrétienne nous a donné, laissé son nom, il s'appelait Dismas. Alors il intervient. Il est le seul, en fin de compte, à intervenir et à défendre Jésus. Jésus ne s'est pas défendu. Vous voyez ? Et dans Saint Luc, on peut faire le rapprochement avec les tentations au désert. Si tu es fils de Dieu, avait dit le démon, change ces pierres en pain. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, Dieu te protégera. Si tu es fils de Dieu, eh bien je te donnerai, ça concerne la royauté, tous les royaumes de la terre, mais prosterne-toi devant moi. Alors ici, vous voyez, on a les triples, si tu es le Messie, eh bien ça concerne effectivement la mission de Jésus. Des tentations sur la mission de Jésus. La première fois, il avait répondu en se servant de l'Écriture, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il lui avait dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis, il lui avait dit, tu adoreras Dieu seul, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Donc, on voit donc, dans ces tentations, eh bien, Jésus les repousse et il ne répond pas. Mais là, il va répondre à ce condamné à mort qui, en fait, reconnaît que Dieu seul sauve. Et le nom de Jésus, c'est Dieu qui sauve. Voilà ce que veut dire Jésus. C'est Dieu qui sauve. Et alors, il va lui dire, parce que ce malfaiteur va lui dire, Jésus, c'est le seul qui l'appelle par son nom, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. On a envie de lui dire, c'est le seul qui ait compris quelque chose dans cette scène. Les autres n'ont rien compris. Oui, quand tu viendras inaugurer ton règne, alors il fallait qu'il ait la foi, une confiance pour dire une pareille chose. Et Jésus va lui répondre, eh bien, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Aujourd'hui. C'est pas pour plus tard, c'est aujourd'hui. Tu as cru que je pouvais te sauver, eh bien voilà, aujourd'hui. Eh bien, pour nous aussi, il y a un aujourd'hui. Nous avons été baptisés. Nous sommes rentrés dans le royaume par notre baptême. Et donc, l'aujourd'hui, eh bien, s'applique à nous. Alors, qu'allons-nous faire de cet aujourd'hui ? Est-ce que nous acceptons que Jésus nous sauve ? Est-ce que nous acceptons sa royauté, puisque aujourd'hui nous fêtons justement cette royauté universelle du Christ, comme le rappelle Paul dans sa lettre aux Colossiens, pour ça qu'on nous a certainement donné ce texte aujourd'hui pour cette fête du Christ roi. Rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Voilà. Nous sommes sauvés par Jésus, on entre dans le royaume au baptême et nous avons la possibilité de vivre du royaume des sept terres, si nous le voulons, Dieu n'impose rien. Si vous lisez bien l'évangile, vous verrez qu'il dit souvent dans l'évangile, si tu veux, c'est pas d'une obligation, c'est si tu veux. Alors, bien voilà. La question que je vous laisse, qu'est-ce que je vais faire pour vivre de ce royaume dans l'aujourd'hui, puisque Dieu m'y appelle ? Ça demande du courage, ça demande bien sûr la foi. Si on n'y croit pas, si on ne croit pas que Jésus nous sauve, eh bien alors naturellement, il ne peut pas grand-chose pour nous, il ne va pas s'imposer à nous. Mais si nous pensons que Jésus, effectivement, porte bien son nom, Dieu sauve, alors est-ce que nous acceptons sa royauté dans notre vie ? Alors je disais que ça demande du courage, une confiance en Dieu, bien sûr. Ce n'est pas évident d'être chrétien aujourd'hui alors que tout va à l'envers, que tout va contre nous. Ça demande effectivement beaucoup de courage. On est souvent comme les derniers des Mohicans. On marche à contre-courant. Le chrétien, c'est celui qui marche à contre-courant. Le monde va à volo, et le chrétien, eh ben, vous savez, il faut un sacré courage pour aller à contre-courant. Et ça, Mais c'est comme ça que c'est la méthode que Dieu a choisie pour sauver le monde. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Vous voyez, souvent, notre logique, elle est différente de celle de Dieu. Et on l'a vu dans le texte d'aujourd'hui, où la logique des hommes, eh bien, ils ont crucifié à cause de leur logique. Jésus ne correspondait pas au Messie qu'ils attendaient, alors ils l'ont crucifié. Ils se sont débarrassés de lui, parce que ça ne rentrait pas dans leur logique à eux. La logique de Dieu est un petit peu différente. Alors, laissons-nous interroger, posons-nous des questions. Bien sûr, pour pouvoir vivre du royaume, il y a un minimum. Alors, elle n'est pas crête, minimum, c'est de garder une vie spirituelle. Si on ne prie pas, vous savez, vous ne resterez pas longtemps dans le royaume. Et puis, la pratique des sacrements, bien sûr. Si on ne se confesse jamais, si on ne va jamais à la messe, alors, ça ne comptait pas rester longtemps dans le royaume. Ah non, c'est sûr que, je vous dis, on marche à contre-courant. Il faut du courage. Alors, donc, quand on habite un petit village, on est quelquefois le seul à prendre le chemin de l'église. Ah oui, c'est dur, ça. Sans compter que les autres peuvent vous décourager. Moi, j'en avais un en sixième, comme ça, après sa profession de foi, il m'a dit, maintenant, c'est terminé. Alors, devant les autres, eh bien... Alors, je ne l'ai jamais revu à l'église, bien sûr. Et puis, l'année suivante, ses copains m'ont dit, puisque je les avais encore au catéchisme, ils m'ont dit, il nous embête tout le temps. Il nous dit, mais pourquoi vous allez encore au caté? Pourquoi vous allez encore à la messe? Vous avez fait votre profession de foi, vous n'avez plus besoin d'y aller. Vous voyez? Donc, alors je leur ai dit, ben, il cherche, il a mauvaise conscience de ne pas continuer, donc il cherche à vous décourager. Et le jour où vous abandonnerez, sa conscience sera en paix, parce qu'il aura gagné. Plus personne ne lui reprochera quelque chose. Ce n'est pas ses parents qui lui reprochaient quelque chose, puisque c'était ses parents qui lui avaient dit tout abandonner, certainement. Et bien voilà, ça demandait du courage aux autres de continuer de prendre le chemin de l'Église et la route du caté. Et bien voilà, c'est ça que le Seigneur nous demande, voilà. Et c'est ça l'aujourd'hui du royaume, l'aujourd'hui de Dieu.